Merci Frédéric, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici, c'est le Collège de France. Donc, j'étais en train de lire la biographie sur Michel Foucault qui a donné aussi la lecture sur le Collège de France. Donc c'est un peu mythique d'être ici. Donc je suis très content. Et je veux parler de quantum machine learning. Voilà. Donc la première question est pourquoi quantum machine learning? Donc c'est une bonne question et je pas vraiment une réponse, mais c'est parce que je crois que c'est nécessaire d'essayer de trouver des applications réelles de cette technologie quantique. Donc surtout que, bon, comme Frédéric a dit, il y a 20 ans quand on a commencé à faire des algorithmes de la complexité quantique, on était une très petite communauté dans le milieu de quelques universités, donc on était assez libre de faire ce qu'on voulait, et c'était très bien. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, avec les plans nationaux, les plans européens, les plans internationaux, il y a beaucoup de milliards d'euros qui sont donnés ou vont être donnés au quantique. Donc pour moi, c'est assez important d'essayer de voir est-ce que ça fait du sens de faire tous ces investissements sur le quantique, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Voilà. Donc, j'ai une sorte de responsabilité que je crois que les scientifiques font aussi poser ces questions-là. Pourquoi on fait ce qu'on fait et quel type d'applications on peut trouver pour les ordinateurs quantiques et en plus général par des technologies quantiques. Donc, je crois que le domaine de machine learning, c'est un domaine assez intéressant pour essayer de trouver des applications des ordinateurs quantiques pour plusieurs raisons. Donc voilà quelques raisons pour être optimiste. Optimiste, ça veut dire de continuer à travailler sur cet domaine. La première, vous avez vu déjà quelques algorithmes assez puissants que Frédéric a détaillés, comme l'algorithme pour la résolution des systèmes linéaires, des équations linéaires. Donc on sait bien et on a des preuves mathématiques qui disent qu'il y a des outils quantiques très très puissants pour l'algèbre linéaire. Quand je parle de l'algèbre linéaire, je parle de choses assez simples comme multiplication de matrices, mais aussi un peu plus difficiles comme l'inversion de matrices, donc la résolution de système des équations linéaires ou toutes les choses qui ont à voir avec les vecteurs propres et les valeurs propres de matrices. Donc tout ce qui est singular value decomposition, principal component analysis, tout ce type de calculs qui ont à voir avec des vecteurs propres, des valeurs propres d'une matrice. Voilà. Donc on a ces outils très 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 puissant. Donc la question est comment on peut les utiliser. Voilà. C'est pas toujours évident. La deuxième raison est qu'il y a une autre chose qu'on fait très très souvent dans le machine learning, qui est d'estimer la distance ou de similarité entre des data points. Voilà. Donc on a deux images. Il faut voir si les deux images sont proches, c'est-à-dire il y a des chats dans les deux images, ou il y a une image où il y a un chat et l'autre où il y a un chien. Voilà. Donc il y a cette question de similarité entre les données qui est très importante d'avoir des méthodes efficaces pour calculer ou estimer la similarité ou la distance entre des données différentes. Voilà. Et ça, c'est aussi une chose assez fondamentale ou lesquelles on peut faire assez efficacement avec un ordinateur quantique. C'est-à-dire, si on a deux états quantiques, il y a une procédure assez rapide pour voir quelle est la distance entre ces deux états quantiques. OK? Donc peut-être vous avez fait déjà les swap tests ou peut-être pas, mais il y a de choses assez efficaces et je vais vous montrer un peu le circuit quantique pour faire ce type des opérations assez vite. Et ça, c'est très important aussi pour les machine learning parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les temps pendant les algorithmes d'apprentissage. Donc troisième raison pourquoi je crois que machine learning, c'est assez intéressant pour les quantiques. Parce que machine learning, c'est pas, comme bon, j'ai dit quelques fois, c'est pas une science exacte. Donc, c'est pas qu'on essaye de trouver quelque chose avec comment je dis, c'est pas comme on essaye de trouver les facteurs dans grand nombre, où là, soit on trouve des facteurs, soit on n'a aucune idée où sont ces facteurs. Donc, il n'y a pas une question de comment je peux approximer les facteurs dans grand nombre. Là, ici, il y a des algorithmes qui sont assez robustes par rapport aux erreurs et par rapport des bruits. Pourquoi ? Parce que déjà, les données sont très bruitées. Donc, quand j'ai dit qu'il y a une voiture autonome qui prend des images de la route et il faut voir si le feu est rouge ou vert, il y a beaucoup de bruit dans l'image déjà. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, il y a des choses qui sont un peu fuzzy. Donc, déjà, les algorithmes d'apprentissage, il faut qu'ils trouvent des solutions dans un environnement qui est assez bruité. Pourquoi c'est intéressant pour les quantiques? Parce que les ordinateurs quantiques sont déjà assez bruités. Mais ce bruit-là, ce n'est pas quelque chose qui va tuer l'application du début. C'est ça, c'est juste un sentiment qui est pas très profond. En disant que, vu que les algorithmes et les méthodes d'apprentissage ont trouvé déjà des solutions sur le problème des bruits, peut-être on peut utiliser ces ordinateurs quantiques, au moins de la première génération, qu'ils ont bruité, d'une manière qu'on peut continuer de trouver des solutions, qui est beaucoup plus difficile de faire ça avec un problème comme la factorisation, où vraiment on a besoin de machines parfaites ou fault tolerant, où il n'y a pas beaucoup de bruit. Voilà. Et la dernière raison, c'est que sur les machine learning, il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire. Voilà. D'abord, on essaie d'être efficace, donc il faut faire vite. Okay? Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Et deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une performance de grande qualité, c'est-à-dire je voudrais être capable de classifier les chats et les chiens avec une accuracy, je ne sais pas comment dire, avec une accuracy qui est très grande. Donc ça, c'est une deuxième... Donc, même si on n'est pas plus vite, si on peut avoir des résultats meilleurs qu'une autre solution, ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Okay? Plus intéressant aussi, et ça devient de plus en plus intéressant avec l'apprentissage et quelque part la deuxième génération des algorithmes d'apprentissage classique, c'est cette propriété qui s'appelle explainability ou interprétabilité. Voilà. C'est-à-dire, on a besoin des algorithmes et des modèles où on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, ce n'est pas suffisant aujourd'hui de dire je prends un réseau de neurones, je n'ai aucune idée comment ça marche, mais ça donne de bons résultats. Donc, je peux utiliser un truc comme ça pour régler les marchés financiers ou pour avoir des décisions sur les patients dans les hôpitaux ou tout ça. Donc, il y a des régulations, des règles, voilà, et ça devient de plus en plus important pour l'apprentissage où on a besoin et il faut des modèles qui sont interprétables. Et donc, les quantiques peuvent aussi faire ces méthodes d'apprentissage qui sont un peu plus traditionnelles, plus algorithmiques, comme les méthodes de support vector machines ou des choses qui sont basées sur les similarités entre les données, qui ne sont pas si efficaces, par exemple, que les réseaux de neurones, mais ils ont cette propriété complémentaire qui est cette explainabilité. Donc, si on peut mettre ces méthodes-là plus efficaces, ils peuvent concurrencer les réseaux de neurones classiques et avoir des modèles qui sont si efficaces que les classiques, mais avec cette propriété extra qui est cette explainabilité qui est assez importante. Dernière chose, c'est l'énergie, l'energy consumption. Donc, le grand problème aujourd'hui avec l'apprentissage, ce n'est pas qu'on n'a pas de bons résultats, c'est que pour trouver les bons résultats, on a besoin de super clusters de GPU qui consument des quantités d'énergie énormes. Donc, si un ordinateur quantique peut avoir même les mêmes solutions, ou même un peu pire des solutions, mais avec une consommation d'énergie beaucoup moins qu'un cluster de GPU, ça donne aussi des choses qui sont très importantes. Et là, même si, si vous, vous voyez un ordinateur quantique avec comme un truc très grand, avec un frigo de presque 0 degré et tout ça, l'énergie qu'un ordinateur quantique consomme est beaucoup moins que l'énergie consommée par un cluster de GPU aujourd'hui. Et on parle d'une différence entre mégawatts et kilowatts. Donc ça, c'est une autre idée pour pourquoi les ordinateurs quantiques peuvent être intéressants pour l'apprentissage. OK, mais comme j'ai dit, il y a des raisons d'être optimiste et de continuer à travailler. Il y a aussi des raisons d'être assez prudent, c'est-à-dire continuer de travailler. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, bon, si vous avez vu l'exposé de Frédéric, ce n'est pas simple. Donc, ces algorithmes-là pour la simulation des Hamiltoniens, des résolutions des systèmes linéaires, des équations différentielles, ce n'est pas des choses très simples, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de compréhension de l'algorithme, on peut essayer de faire ça, on sait comment le faire. C'est aussi que, par exemple, la complexité de ces algorithmes dépend d'une grande quantité de paramètres. Et là, si cet algorithme quantique est plus vite ou moins vite qu'un algorithme classique, ça dépend de plusieurs paramètres qu'il faut vraiment étudier cas par cas. Donc, c'est des paramètres qui dépendent de l'instance du problème. Donc, ce n'est même pas une dépendance sur voilà, est-ce que je veux faire un système de recommandation ou résoudre un système des équations linéaires. Pour chaque système des équations linéaires, il faut regarder la matrice qui décrit les systèmes d'équations, et il faut voir les paramètres de cette matrice-là, et c'est ces paramètres-là qui nous vont dire si ça fait du sens d'utiliser un ordinateur quantique pour résoudre ce système linéaire ou pas. Voilà, quelquefois c'est meilleur, quelquefois c'est pas. Donc c'est ça que j'ai dit, il y a des outils très, très puissants, mais très subtils. Voilà. Et c'est pas toujours évident si ça va marcher ou pas. Donc, il faut vraiment, c'est dans les détails, the devil is in the details. Donc, voilà. OK, la deuxième chose qui c'est assez intéressant, d'un côté recherche aussi et d'un côté pratique aussi, c'est machine learning. On a ces données qui sont un peu énormes quelquefois. On a toutes ces images, on a tous ces signaux qui viennent peut-être des expériences de la physique au CERN ou des satellites. On a tous les trafics sur l'Internet. Donc comment on peut prendre ces données-là, qui sont des données classiques, et faire quelque chose d'intéressant avec un ordinateur quantique? Donc au début, il faut trouver une manière de prendre ces données classiques et transformer et transférer ces données dans un état quantique pour que l'ordinateur quantique peut faire quelque chose avec, peut faire des calculs intéressants avec ces données. Donc il y a une question, est-ce que c'est efficace de prendre ces données classiques et les transformer dans les états quantiques, comme Frédéric a montré, pour résoudre ces systèmes des équations linéaires? Il faut prendre les vecteurs classiques et les matrices classiques A et B et construire ces états quantiques qui correspondent à cette matrice et ces vecteurs. Est-ce que ça, c'est efficace ou pas? Donc, je vais vous donner quelques idées pourquoi il y a de cas où c'est efficace, il y a d'autres qui peut-être ne sont pas. Donc, encore une fois, il faut regarder vraiment dans les détails du problème. Troisième chose, comme on a vu, la solution de ces algorithmes quantiques reste une solution quantique. Donc, quelquefois, cette solution quantique est déjà très intéressante pour résoudre ton problème, et c'est facile de le faire avec cet état quantique. Quelquefois, ce n'est pas le cas, donc il faut transférer l'information qui est encodée de ces solutions quantiques dans un état classique. Et là, il faut répéter cet algorithme quantique plusieurs fois pour être capable d'extraire cette information qui est dans ce système quantique d'une manière qui est intéressante pour continuer et trouver la solution sur les problèmes classiques. Okay. Encore une fois, quelquefois ça marche, quelquefois ça marche moins bien, et on va regarder quelques cas différents pour voir s'il y a un problème ou pas. Dernière chose, et c'est assez intéressant parce que, comme Frédéric a dit, j'essaie vraiment de voir si ces algorithmes-là vont être efficaces en pratique et pas seulement dans les papiers où on parle de la complexité, de runtime asymptotique et tout ça, mais est-ce qu'ils vont marcher en vrai? C'est très difficile de faire du benchmarking de machine learning si on ne peut pas faire tourner l'algorithme avec les données, les vraies données. Et ça, c'est un vrai problème, surtout sur la partie de l'imprédichage quantique qui est l'analogue de réseaux de neurones, parce que là, on n'a pas de preuve que ça marche ou ça ne marche pas. Il faut vraiment faire tourner le réseau de neurones, il faut train les réseaux de neurones avec les vraies données et voir si ça marche ou pas. Donc le problème est que pour faire marcher ces trucs, on a besoin de matériel et on n'a pas encore le matériel suffisant large pour voir si vraiment quelque chose marche ou pas. Donc c'est le problème de tous les algorithmes qui ne sont pas des algorithmes théoriques, c'est-à-dire avec des preuves d'efficacité, des preuves de performance, qu'ils ont des heuristics. Donc les réseaux de neurones, c'est des choses heuristiques, quelque part. Donc pour voir si une heuristique marche ou pas, il faut voir. Voilà. Et en absence de grand matériel, on peut faire de petites expériences de réseaux de neurones avec 4 nœuds ou 8 nœuds ou 10 nœuds. Et après, on peut essayer d'extrapoler la performance de cet réseau de neurones quantique en disant si ça marche pour 4 nœuds, je suis sûr que ça marche avec 1000 nœuds parce que pourquoi pas. Donc ça, c'est pas une preuve mathématique ou donc c'est assez difficile de voir qu'est-ce que ça va marcher le moment où l'échelle des ordinateurs va devenir assez large pour avoir de vraies applications avec les vraies données. Ok, donc est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? C'était un peu non, donc je continue. All right, donc je continue. Donc je voudrais vous donner juste un premier exemple. Où on est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des ordinateurs quantiques qu'on a aujourd'hui ou des machines quantiques qu'on a aujourd'hui sur le machine learning? Okay? Donc, on a regardé les problèmes les plus basiques voilà, sur le machine learning, qui est la classification. Donc, qu'est-ce que la classification? On a beaucoup de données. Ça pourrait être données de marché financier, ça pourrait être des images médicaux, des signaux qui arrivent dans une voiture autonome ou des préférences d'un utilisateur sur un système comme Amazon ou Netflix avec des préférences sur les produits, les films et tout ça. Donc, on a ces données-là. Et la question est-ce qu'on peut trouver des algorithmes quantiques pour faire une classification? Une classification, c'est-à-dire, voilà, par exemple, est-ce que cet email est un vrai email ou un spam? Est-ce que ces images, les images de chats ou les chiens? Et, ou les choses comme, en regardant les données de marché financier de l'année dernière, qu'est-ce qu'il faut faire? Vendre ou acheter? Voilà, donc ce type de decision making, de prendre des décisions. Et comme je dis, il y a deux types, des grands types d'algorithmes différents pour ce problème-là. Les premiers sont plus algorithmiques, quelque part. Donc, par exemple, il y a cet algorithme qui s'appelle Nearest Centroid, qui est assez simple. Il y a trois catégories de données, le bleu, le vert et le rouge. Donc, ce qu'on fait quand on essaye d'apprendre les modèles, c'est qu'on calcule les points bleus moyens, les points verts moyens et les points rouges moyens, c'est les centroïdes. Et après, le moment où une nouvelle donnée arrive dans le système, les petits cercles blancs, donc on regarde les trois centres centroïdes des trois catégories différentes, on trouve les plus proches, là c'est les plus proches, les verts, et donc on dit que les nouveaux données, c'est vert. Voilà, donc c'est un algorithme très très simple, mais qui arrive aussi dans les supervised, mais aussi dans les unsupervised learning. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental. L'autre manière de faire ça, c'est avec des réseaux de neurones. Voilà, c'est la nouvelle manière de faire les classifications dans l'apprentissage. Ok. Donc ce qu'on a fait, on a trouvé des algorithmes quantiques qui sont basés un peu ou inspirés par ces algorithmes classiques. Là, il faut aussi écrire les logiciels quantiques. J'ai mis ça parce que ce n'est pas si simple que comme on écrit les logiciels classiques. Pourquoi ce n'est pas si simple? Parce que quand on veut faire le logiciel pour avoir un algorithme comme Nearest Centroid dans une machine classique, on utilise un langage très très haut niveau comme Python. Et on s'en fout si ça passe dans un GPU, dans un CPU, combien de bits classiques on utilise et surtout quel type de porte entre qubit ou entre bits on va utiliser. On s'en fout de tout ça, on reste dans un niveau très très haut niveau où on écrit quelques lignes de Python et là, l'algorithme tourne dans un hardware d'une manière optimisée parce que tous les autres niveaux de cette stack de logiciels, ils ont déjà optimisé. Voilà. Mais là, ce n'est pas exactement la même chose avec un ordinateur quantique parce qu'on a, dans un niveau, on a vraiment, il y a une différence si on peut utiliser 8 qubits ou 9 qubits. Voilà. On fait pas on n'a pas cette problématique avec un ordinateur classique, mais avec un ordinateur quantique, bon, en ce moment, on a ce type de questions. Donc, on a vraiment besoin d'aller très très bas dans les stacks de logiciels où on explicite les portes et les qubits et qu'est-ce qu'on fait avec chaque qubit. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de dire j'ai un algorithme que j'ai écrit dans un papier, comment ça se traduit dans un circuit quantique avec 5 qubits ou 10 qubits. Il y a plusieurs manières différentes de faire le même algorithme. Avec un circuit quantique. Il y aura quelques circuits qui rentrent dans le matériel qu'on a aujourd'hui, l'autre qui ne rentre pas. Donc si on a vraiment besoin de trouver des solutions pour utiliser les ordinateurs qu'on a aujourd'hui ou l'année prochaine, il faut vraiment optimiser tout ça avec les logiciels. Okay? Donc, on a construit ces circuits quantiques et on a donné ça dans un ordinateur quantique qui est sur le cloud. Il y a quelques-uns comme ça, comme les IBM, les IonQ, en Europe aussi. Et qu'est-ce qu'on a ? Quels étaient les résultats ? Donc, ça, c'est un papier qu'on a publié il y a quelques mois. Donc, on a essayé encore une fois de faire les choses les plus simples pour voir si au moins ça marche. Donc, on a utilisé la dataset de MNIST. Donc, ça, c'est des digits écrits à la main. Donc, la question est-ce qu'un ordinateur quantique peut comprendre s'il s'agit d'un chiffre 0, 1, 2, 3 ou 9 ? Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique est d'être correct sur ces 10 digits différents avec 8 sur 10 fois. Donc, avec une probabilité de presque 80%, 77,50%. Et c'est qu'on voit ça c'est les matrices de confusion. Donc, le résultat parfait, c'est la diagonale qui est noire et tout autre est blanc. Donc, le premier, c'est la performance d'algorithme classique, avec les mêmes nombres de dimensions de données, parce qu'il fallait voilà, un peu resserrer la dimension de données. Et en bas, c'est la performance de l'algorithme quantique, et il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux. Donc aujourd'hui, on peut dire que même avec un ordinateur de 11 qubits quantiques, on a une performance de 8 sur 10 sur un dataset qui est assez simple, mais quand même, on a réussi de déchiffrer 10 classes différentes de digits. Voilà. Donc on est un peu là. C'est assez loin des performances des algorithmes classiques ou des réseaux de neurones classiques qui, sur ces problèmes-là, ils ont à 99,7%. Donc, on est loin encore. Mais, au moins, on commence d'avoir des résultats qu'ils n'ont pas de bruit. Voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose que, voilà, s'ils m'avaient demandé il y a 3 ans si on sera là aujourd'hui, je disais non. Bon, la même chose que si je ne sais pas pour Frédéric, mais moi, si quelqu'un m'a demandé il y a 20 ans quand on a commencé, si on sera aujourd'hui là, je disais aussi non. Donc, je suis très content d'être surpris positivement par les avancées de quantique. OK. Donc, comme je dis, la deuxième manière de faire cette classification, ces réseaux de neurones, c'est quelque chose qui est, voilà, comme j'ai dit, c'est des types de heuristiques pour trouver des architectures et des réseaux différents pour essayer de trouver de meilleures manières de faire ce type d'algorithmes. Donc, il y a plusieurs propositions. J'ai mis quelques-unes ici. Donc, quelle est l'idée? L'idée est qu'on construit un circuit quantique avec des portes qui ont quelques paramètres. Donc, chaque porte, ça pourrait être une rotation avec un angle qui est un paramètre θ. Et après, cette θ, ça pourrait être 0, π sur 2, ou voilà, quelque chose. Donc, l'idée est d'essayer d'apprendre quel paramètre il faut mettre dans ces portes, dans ce circuit quantique, pour que ce circuit quantique puisse faire la classification qu'on a besoin. Donc, par exemple, on donne comme inputs dans ce circuit quantique les images de chat et de chien, et on attend à la fin du circuit que le circuit classifie correctement les images. Donc, ils disent chat pour les chats et chien pour les chiens. Donc, au début, ça ne sera pas du tout le cas parce qu'on a mis des paramètres un peu aléatoires sur ce circuit-là, mais petit à petit, on essaye d'optimiser ces paramètres pour, à la fin, on a un circuit qui est entraîné. Voilà, qui peut faire une classification avec grande performance. Voilà. Il y a plusieurs questions là. Par exemple, pourquoi ce type d'architecture et pas d'autres? Quel type de porte il faut mettre et pourquoi? Donc, pour moi, ce n'est pas très évident comment faire ce type d'architecture des réseaux de neurones. Donc, on essaye de quelque part d'imiter les architectures classiques qu'on sait bien qu'elles marchent, par exemple des fully connected réseaux de neurones ou des convolutional neural networks. Donc on essaye de prendre l'intuition de ce type d'architecture classique pour voir quel type d'architecture quantique on peut utiliser pour faire ce type de tâches comme la classification. Qu'est-ce que je peux dire sur ça d'autre? C'est que ce n'est pas tout à fait clair pourquoi ou si on va avoir des réseaux de neurones quantiques qui seront mieux que les réseaux de neurones classiques. Surtout que les réseaux de neurones classiques marchent très bien. Donc, ce n'est pas clair comment on peut faire plus vite, parce qu'avec les GPU et les matériels qu'ils ont très très spécifiques pour faire exactement ce type de calcul très très vite, ce n'est pas très clair comment on va arriver dans un moment où les ordinateurs quantiques peuvent être plus vite que les ordinateurs classiques sur ce type de calcul. Et ce n'est pas clair si on peut avoir des modèles qui sont au mieux, avec une performance meilleure. Donc l'espoir est que l'effet qu'on cherche dans un espace qui est beaucoup plus grand, parce qu'on est dans un Hilbert space, dans un espace de Hilbert, qui est exponentiellement plus grand qu'un réseau de neurones classiques avec des bits classiques à la place des qubits. Donc, on a cette possibilité d'essayer d'optimiser notre tâche dans un espace beaucoup plus grand. Après, ce n'est pas très clair comment on peut trouver un meilleur minimum ou optimum dans cet large espace qu'on peut naviguer. Voilà. Donc, on a fait deux choses sur ce type de travaux. On essaye d'être très très prudent parce que, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment à faire des expériences, de vraies démonstrations, donc on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc, on a fait deux choses. La première était de dire, est-ce qu'on peut avoir un système hybride où on utilise un ordinateur quantique pour entraîner un réseau de neurones classiques plus vite? Donc, on ne va pas faire un réseau de neurones quantiques avec des portes quantiques, des paramètres, tout ça. On reste dans une architecture classique, qu'on sait bien que ça marche. La question est-ce qu'on peut utiliser un ordinateur quantique à côté pour entraîner ce système, ce réseau de neurones plus vite, okay? Et donc, la question est, en théorie, oui, en pratique, on ne sait pas encore. Et pourquoi? Parce que le type de calculs qu'on fait pour entraîner ces réseaux de neurones, c'est de l'algèbre linéaire. On multiplie des matrices. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, comme on a vu, il y a des algorithmes quantiques pour inverser une matrice. C'est presque le même algorithme pour multiplier des matrices entre eux. Donc, si on peut utiliser ces ordinateurs qui sont assez grands pour qu'on peut faire tourner des algorithmes comme les HHL qui ne sont pas très faciles. Mais bon, donc là, peut-être on aura un speed-up sur l'algorithme quantique. La deuxième chose qu'on a fait, on a essayé de trouver quelles propriétés on peut utiliser des réseaux de neurones quantiques qui peuvent être intéressants pour l'apprentissage et pour les réseaux de neurones. Et cette propriété qu'on a trouvée qui est assez inhérente et présente dans les systèmes quantiques, c'est la propriété de orthogonality, de orthogonalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire orthogonalité? C'est-à-dire que les matrices de poids qu'on essaie d'apprendre pour cet réseau de neurones, on met cette contrainte qu'il faut être une matrice orthogonale. Donc, pourquoi on fait ça? Il y a des raisons pour faire ça, même en classique, parce que on garde quelque chose, un système où on garde l'information, la plus possible quantité d'information, parce que chaque nœud de ce système, c'est un peu indépendant des autres. C'est ça qu'on gagne par rapport d'avoir une matrice où les colonnes de la matrice sont orthogonales entre eux. C'est qu'on garde un peu plus un volume d'informations le plus grand possible. Donc, c'est une propriété qui est assez intéressante en classique, mais ce n'est pas facile d'entraîner des systèmes de réseaux de neurones classiques avec cette propriété d'orthogonalité. La meilleure manière qu'on essaie de faire ça, c'était on fait un algorithme de gradient descent. On trouve des nouveaux poids. C'est une matrice qui n'est pas du tout orthogonale. Et après, on utilise un algorithme pour orthogonaliser la matrice, comme trouver les vecteurs propres et tout ça. Et ça, c'est pas très vite. Donc, c'est pour ça que ce type de réseaux de neurones ne sont pas utilisés, ne sont pas très populaires en classique. Mais là, ce qu'on a vu, c'est qu'en utilisant l'intuition, et ça, c'est aussi un quantum-inspired algorithme, en utilisant l'intuition qu'un système a un circuit quantique, ça représente une matrice unitaire, et une matrice unitaire, c'est une matrice orthogonale, donc on oublie les trous complexes, on reste dans le réel. Et donc, cette propriété orthogonalité, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà présent dans les systèmes quantiques, et on ne peut pas faire quelque chose de très difficile pour continuer d'être orthogonal. Donc, on a fait ce type de recherche-là et ça sera un papier qui va sortir dans quelques semaines, donc c'est assez récent. Et là, je crois que c'est... j'ai encore un peu de temps. OK. Donc là, je passe dans une autre chose et je vais utiliser quelque chose que vous avez vu avec Frédéric. Donc ça, c'est aussi... Une application qui est assez fondamentale sur le machine learning, qui est la réduction de la dimensionnalité des données. Donc, on commence toujours avec des données qui sont plutôt d'une dimension énorme. Et la première chose qu'on fait plusieurs fois, c'est d'essayer de réduire la dimension des données pour qu'après, on peut utiliser des algorithmes, de l'algèbre linéaire ou... Voilà, la complexité de ces algorithmes, c'est par exemple cubique dans la dimension. Donc, avec une dimension de 10 000, on est déjà aux limites. Donc, si les données ont une dimension plus que ça, il faut d'abord réduire les dimensions et après être capable d'utiliser ces algorithmes dans l'algèbre linéaire. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà entendu parler, c'est des singular value decomposition, principal component analysis, ou d'autres un peu plus pointus, les linear discriminant analysis ou slow feature analysis. Donc, tout ça, c'est des méthodes de réduction des dimensionnalités des données qui sont basées sur presque la même chose. On regarde les spectres de la matrice, on regarde des vecteurs propres et des valeurs propres, et par exemple, pour les principal component analysis, on garde seulement les vecteurs propres avec des valeurs propres les plus grands. Voilà, donc on s'en fout des choses qui ont des valeurs propres très petites, on garde seulement les top spectrum. Voilà. Donc tous ces types des algorithmes ça, sont à peu près la même. Quelquefois on regarde les plus grands, quelquefois on regarde les plus petits, mais c'est toujours des choses qui sont liées avec les vecteurs propres de la matrice. Bon, ça c'est pas intéressant, mais voilà, il y a des manières de faire ce type de l'algèbre linéaire en quantique. Et comment on peut faire ça? Voilà cette méthode qui est, comme Frédéric a dit, c'est un peu l'extension de phase estimation pour les matrices qui n'ont pas unitaires. Donc on sait très bien de dire que si j'ai un vecteur propre d'une matrice unitaire, je peux écrire ou estimer la value propre qui correspond à ce vecteur propre. Okay? Ça, c'était assez facile pour une matrice unitaire. La vraie idée de l'algorithme de HHL, c'était de dire, voilà, si j'ai une matrice unitaire, je sais comment le faire. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une matrice qui vient d'un système linéaire qui n'est pas unitaire? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? D'une manière, on embed une matrice non unitaire dans une matrice unitaire qui est simple à construire ou à implémenter. Okay? Donc, c'est ça l'idée. Donc, on prend une matrice qui n'est pas unitaire, on assume pour le moment que c'est symétrique, Hermitian et tout ça, on embed cette matrice dans une matrice unitaire d'une manière où les valeurs propres et les vecteurs propres de ces deux matrices sont liés. Et après, si je fasse une phase estimation de cette matrice unitaire, je prends les valeurs propres, parce que je sais comment faire les valeurs propres par rapport à ces vecteurs propres de l'unitaire, et après, c'est facile de transformer les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice unitaire aux valeurs propres et vecteurs propres de cette matrice A qui n'était pas unitaire. Okay? Donc, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc, les singular value estimations, c'est cette procédure qui extend le phase estimation. Donc, elle fait exactement la même chose, mais pour les matrices A qui n'ont pas unitaire. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quelque chose de très simple. Donc, j'essaie de faire une projection d'un vecteur dont dans l'espace spanné par les top vecteurs propres de cette matrice A. Okay? Donc, j'ai un vecteur B, c'est écrit comme une combinaison de vecteurs propres de cette matrice A. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas qui sont les vecteurs propres, voilà, mais ça, c'est une base, orthonormal basis. Donc, cette vecteur B s'est écrit d'une manière comme ça. Et après, si j'utilise cette procédure, voilà, je peux écrire à côté de ces vecteurs propres les valeurs propres. Et après, c'est assez facile d'une manière de garder les valeurs propres qui sont grands et de rejeter les valeurs propres qui sont petits. Comment je fais? J'utilise un nouveau qubit, une flag, où je mets 0 si la valeur de lambda I est plus grand qu'un threshold, qu'un T. Et je mets 1 si c'est plus petit. Et après, ce que je peux faire, c'est garder un peu la partie de l'état qui a un 0, voilà, et effacer la partie 1. Pour faire ça, on peut utiliser l'amplitude amplification et tout ça. Mais à la fin, j'aurai cette étape ici, qui est exactement la projection du vecteur B dans les espaces spannés par les vecteurs propres de la matrice A avec une valeur propre plus grande que T. Okay. Donc on a fait exactement ce qu'on voulait, on a fait une principal component analysis, et ça, on peut utiliser, par exemple, pour faire les systèmes de recommandation. Donc ça, c'était quelque part la première end-to-end application pour le machine learning, et c'est assez simple de comprendre comment ça marche cet algorithme. Donc, on a une matrice de préférence, on a des utilisateurs et des produits. Okay. Il y a des préférences des utilisateurs si j'aime un produit ou j'aime pas un produit, par exemple. Si on regarde et la question est quoi ? Et la question est d'essayer de comprendre si un produit a un grand valeur pour l'utilisateur ou pas. Parce qu'il faut faire une recommandation d'un produit. Ça vaut mieux de faire une recommandation d'un produit qui a un valeur pour l'utilisateur. Donc, si on voit cette problème comme un problème mathématique, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de prendre l'utilisateur, qui est un vecteur de cette, un row de cette matrice, et faire une projection de cette vecteur dans les top, dans l'espace spanné par les top vecteurs propres de cette matrice-là. Et là, on a vu comment le faire. On peut utiliser cette singular value estimation procedure pour faire ça très efficacement. Voilà. Et ça, c'est les vraies procédures quantiques qu'on fait. C'est cette projection de ce vecteur qui est l'utilisateur dans cet espace spanné par des vecteurs propres de cette matrice. Et là, on peut conclure qu'un ordinateur quantique peut faire des recommandations vite. Donc, il y a quelques années, là, c'était exponentiellement plus vite. Après, comme Frédéric a dit, c'est plus exponentiellement plus vite, mais c'est polynomiellement plus vite, parce que il y avait des nouveaux algorithmes classiques, voilà, qui, inspirés par notre algorithme quantique, ils ont trouvé des manières de faire le même type d'algorithme en classique, avec une complexité où les dimensions de la matrice, les utilisateurs et les produits sont dans un long. Voilà. Donc la complexité de l'algorithme dépend dans le nombre d'utilisateurs et de produits seulement dans un logarithme. Et là, c'est la complexité qui dépend dans les types différents d'utilisateurs, c'est-à-dire les rank of the matrix, dans les rangs de la matrice. Et là, si je mets quelques chiffres qui correspondent à la matrice d'Amazon ou de Netflix, par exemple, on a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, on a beaucoup, beaucoup de produits, mais les types différents des utilisateurs, ce n'est pas si grand. Donc, on n'est pas tous des utilisateurs uniques. En fait, non. 99% des utilisateurs rentrent dans une centaine de catégories différentes. Voilà. Donc, quand on fait une recommandation, on fait une recommandation qui correspond à un groupe d'utilisateurs et ce n'est pas vraiment unique pour une personne. Okay? Donc, avec ce type de matrice-là, qu'ils ont des low rank, qu'ils ont un rank assez petit par rapport à la dimension, on voit que ce type d'algorithmes, les quantiques ou les quantum inspired, sont mieux. Mais quand même, c'est ça que Frédéric a dit, qu'en pratique, ça, ce n'est pas du tout efficace pour le moment. C'est parce que la complexité ici par rapport des rangs, c'est sourd. Sur 8, sur une puissance de 8, et ça donne des chiffres qu'ils ont même pire que les algorithmes classiques qu'on connaissait avant. Okay? Donc ça, c'est assez intéressant parce que, voilà, le speed-up a devenu de exponentiel à polynomial, mais en pratique, rien n'a changé. Parce que les polynomiales, pour le moment, c'est plus grand que l'exponentiel si on met les chiffres et les dimensions pour lesquelles on voudrait résoudre les problèmes. Très bien. Donc, je suis presque à la fin. Je voudrais juste dire deux mots sur comment on essaye de, comme j'ai dit, de transférer les données classiques sur un ordinateur quantique pour qu'on puisse faire ces algorithmes après. Donc, on a trouvé ce type de circuit parce que, comme j'ai dit, à la fin, il faut décrire un circuit. Ce n'est pas un algorithme de haut niveau, voilà, on fait ça. Il faut vraiment voir comment les circuits, comment on fait les circuits. Donc, on utilise ce type des portes qui ont des portes avec un paramètre θ et ils font une petite rotation avec les cosines et les sines dans les deux dimensions et ils ont l'identité dans les autres deux dimensions. Donc c'est une porte de 2 qubits. Et les circuits semblent quelque chose qui est à droite, il est presque un arbre de ces portes. Donc au début on a une porte entre le premier et les qubits au milieu, après on a deux portes, après on a 4, 8, so forth. Donc le nombre de portes, c'est exactement la dimension du donné. Peut-être que je vous montre ça. Donc si on a une donnée classique avec n dimensions, donc une manière de faire transférer cette donnée classique dans un état quantique qui est intéressant pour faire les algorithmes après, on peut utiliser une qubit par dimension, donc n qubits. Mais la bonne chose, c'est que les profondeurs du circuit est seulement logarithmique à n. Et le nombre de portes quantiques, c'est exactement l'optimal, c'est-à-dire il y a n minus 1 parce qu'il y a n moins 1 degrees of freedom pour un vecteur qui a norme 1 qu'on pourrait mettre dans ces systèmes. Okay? Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut un peu faire un trade-off entre le nombre de qubits qu'on a besoin et les profondeurs du circuit. Donc on peut faire la même chose avec beaucoup moins de qubits, donc on passe de n à racine n, et on augmente les profondeurs de log n à racine n log n. Donc en fait, on peut faire n'importe quel trade-off entre les deux, les qubits et les profondeurs, qui donne un peu l'optimal, bon, sauf le log n, qui est n, qui est la dimension de données. Okay? Et c'est exactement ce type de circuits qu'on a utilisé pour les MNIST, pour l'exemple de classification que je vous avais montré. Et c'est exactement ce type de circuits qu'ils ont marché sur les matériels d'aujourd'hui. Okay? Là, c'est juste les circuits pour faire la deuxième étape de l'algorithme qui est trouver la similarité ou la différence entre deux données. Donc, c'est très facile, on load le premier et on load à l'autre côté le deuxième. Et ce qui sort sur le premier qubit, c'est exactement les inner product entre les deux données. Okay. Je ne vous donne pas beaucoup de détails, mais voilà. Et donc, j'essayais de vous montrer que la raison pour laquelle les quantiques peuvent faire des choses intéressantes sur le machine learning, c'est parce qu'on a des routines qu'ils ont très, très à la base des algorithmes. Donc, pour l'estimation des distances, pour l'algèbre linéaire et tout ça. Donc, c'est-à-dire que les applications de ça sont beaucoup. Donc, on a vu comment les utiliser pour la classification, mais c'est la même chose, par exemple, pour le unsupervised learning, pour le clustering, parce que là, vraiment, à la base, l'apprentissage, c'est beaucoup d'algèbre linéaire. Donc, chaque fois qu'il y a des algorithmes où il faut beaucoup de multiplication des matrices ou d'inversion des matrices ou ça, on peut mettre là un ordinateur quantique ou un algorithme quantique pour faire ces algorithmes plus vite. Extension des Q-means sur expectation maximization, spectral clustering. Reinforcement learning, ça c'est aussi très intéressant, c'est une autre manière de faire d'apprentissage, c'est plutôt pour quand on est dans un environnement qu'on ne connaît pas très bien, il faut naviguer cet environnement. Même si on a un robot qui essaye de naviguer un espace ou quelqu'un qui essaye de comprendre comment jouer à un jeu comme l'échec ou ça. Et là, on voit que dans cet algorithme pour apprendre, pour faire du reinforcement learning, il y a un système linéaire. Donc, en fait, plusieurs systèmes linéaires. Donc là, encore, on peut mettre ça. Et la dernière chose, je finis avec ça, c'est l'optimisation. Il y a plusieurs manières de faire d'optimisation. Ça dépend si c'est l'optimisation combinatoire pour le problème des NP. Peut-être que je vous avais discuté de ça, les algorithmes de QAOA ou de annealing. Mais il y a une autre manière d'optimisation qui est plus liée avec l'apprentissage, qui est l'optimisation convexe. Et là, on a des méthodes itératives, comme on dit. C'est les méthodes de premier ordre comme gradient descent ou deuxième ordre comme interior point methods. Et là, quand on regarde ces méthodes-là, on voit que dans chaque étape de ces méthodes, pour le second order, il faut aussi résoudre des systèmes des équations linéaires. Encore une fois, ce n'est pas qu'on peut prendre l'algorithme quantique des équations linéaires et mettre dans ça et ça marche. Il faut beaucoup de choses à prouver, encore une fois, parce que tout ça, ça fait avec des bruits, même des bruits parce que les algorithmes quantiques sont approximatifs. Ce n'est pas le bruit du matériel maintenant, mais c'est le fait que les algorithmes ne sont pas déterministes, sont probabilistes. Quelque manière. Donc, il faut voir si la convergence marche encore, si ça marche bien en pratique. Donc, il y a plusieurs choses à voir pour voir si ce type d'algorithme marche. Et là, j'ai fini en disant qu'on a des outils quantiques assez puissants pour les choses qui sont importantes pour l'apprentissage, comme l'algèbre linéaire, l'estimation des distances. Et ils sont assez subtils. On a vu les inputs, les outputs, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, tous les paramètres qui sont importants pour ce type d'algorithme. Je crois que les choses les plus intéressantes, ça sera plutôt les algorithmes où en classique sont très très difficiles à faire, c'est-à-dire sont cubiques dans les dimensions. Donc tout ce type de l'algèbre linéaire assez difficile. C'est-à-dire les principal component analysis ou les kernels, spectral clustering, les choses où vraiment on a besoin de beaucoup de calculs. Parce que ça, c'est quelque chose que l'ordinateur quantique et les algorithmes quantiques peuvent faire très bien. Et à la fin, il faut voir si ces solutions-là vraiment marchent en pratique. Donc on commence petit à petit. On a besoin de matériel un peu plus grand pour faire. Le benchmarking sur les choses qui sont plus heuristiques. Pour les algorithmes, on a des preuves mathématiques, donc ça, c'est intéressant aussi. Et j'ai fini en disant que, voilà, on n'est pas là encore, donc on n'est pas dans les moments où les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui vont révolutionner l'apprentissage et le machine learning, mais on n'est pas si loin non plus. Donc vraiment, je suis optimiste. Parce qu'il y a de jeunes brillants qui travaillent sur le domaine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avancées côté algorithmique qui font que ces algorithmes qui ont pensé qu'ils ont besoin de millions de qubits, maintenant, on peut faire tourner avec des milliers de qubits, par exemple. Donc, on essaye, et c'est ça que je travaille beaucoup, on essaye de limiter les ressources nécessaires pour que ces algorithmes marche en réalité. Et c'est ça qui fait que les timelines, l'horizon pour trouver ces applications se resserre toujours et ça va continuer de se resserrer. Merci beaucoup. C'est tout. Voilà.